première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
On est dans un endroit de silence, pourtant on entend les rumeurs de la ville.
Un peu, oui, la route. L'autoroute est pas si loin. Le R3 et l'autoroute qui va vers Namur. Oui, et les avions. On les entend.
Et nous nous trouvons, Marie-Noël Dailly,
à l'abbaye Notre-Dame de Soleilmont, à Fleurus, qui est la nouvelle abbaye de Soleilmont, puisque l'ancienne a brûlé et les sœurs ont fait reconstruire cette abbaye ici dans les années 70 peut-être. On va demander à l'architecte quand il sera là.
Et l'architecte est ?
Franz Laurent. C'est un architecte qui a très peu construit, mais en tout cas il a construit ça.
Franz Laurent.
Et vos yeux de photographe décrivent le bâtiment comment ?
C'est un bâtiment qui est très horizontal, il n'y a pas de verticalité. Donc, c'est tous des blocs qui s'enchassent les uns dans les autres, mais un petit peu en retrait chacun les uns des autres. Et donc ça crée comme une espèce de redan d'escalier. Et j'imagine que ça, c'est donc les cellules des sœurs et qui s'inscrit dans le paysage de façon tout à fait discrète, en fait. Moi, c'est ça qui m'a le plus touchée quand je suis venue la première fois. C'est cette relation avec l'environnement et la nature.
C'est une abbaye, donc c'est un peu particulier. Hein, donc c'est une construction qui est préfabriquée, entre parenthèses. Hein.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
Une maladie honteuse. Donc.
Ces lieux nous parlent.
Une abbaye, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. On ne construit pas une abbaye souvent. Hein? Alors, ça a fait l'objet d'une grande étude au départ. On connaît l'ancienne abbaye qui a été incendiée. Hein? Et donc, à ce moment-là, il y a eu toute une réflexion, hein, sur le projet de construction d'une abbaye. Hein? Et il y avait donc cette ancienne abbaye en moitié en ruine, donc le trois quarts de l'abbaye était disparu. Hein, les sœurs ont continué à habiter là-bas un peu en style camping. Hein. La réflexion c'était, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va construire ici, sur ces anciennes fondations, hein, ou bien est-ce qu'on va chercher autre chose ? Alors on a fait des recherches, on est allé à l'étranger, on a visité d'autres abbayes, et puis tout ça a pris un certain temps. On a fait des projets, donc des projets de construction d'une nouvelle abbaye sur les fondations existantes, en choisissant différentes formules, différents objectifs. Il y a aussi un point important, c'est la vie monastique, hein, des cisterciens, hein, qui est une vie très je peux pas dire recluse, mais enfin très, surtout à l'époque. C'est pas qu'on visitait les abbayes, on se retrouve derrière une grille, un rideau. Hein. Mais heureusement, il y a eu Vatican II, qui a été un moment d'ouverture. Hein. Et comme la mère abbesse, qui à l'époque avait un caractère très, très ouvert et était attentive et ouverte, hein, à toute suggestion, hein, c'est pour ça qu'on a fait huit avant-projet, avant de trouver une solution définitive. Donc cet esprit d'ouverture a été, un élément important dans la construction de l'abbaye, parce que toutes les abbayes, si certaines et les autres, sont construites sur un plan carré avec cloître intérieur. Hein, mais ce système n'est pas favorable au point de vue fonctionnel, hein, parce qu'il y a des connexions, par exemple, de la cuisine, communique avec le cloître, tout ça ne fonctionnait pas normalement, donc on s'est dit on va abandonner un peu le plan traditionnel, hein, et grâce à l'ouverture donc, de Vatican II, on a eu cette possibilité de voir, d'avoir une autre
Marie
optique.
Hélène Day, pouvez-vous décrire
et ce voilà, lieu, et c'est un peu ça qui a inspiré la forme de
ce cheminement oui, de l'extérieur. De
ce portique, donc.
Il amène à l'église vraiment petit à petit. Il te retire.
Oui.
Il te retire du paysage pour te permettre d'entrer, mais vraiment crescendo. Hein, c'est pas abrupt, c'est délicat. Le mur vient te chercher, puis tout doucement, tu quittes le paysage pour rentrer dans l'église. Maintenant, cette cour.
Portrait des architectes Franz Laurent et Jean Yernaud. Dans le cadre du nouveau guide d'architecture moderne et contemporaine, Charleroi Métropole.
J'apprécie beaucoup la photo que vous avez prise parce que bon, c'est justement ce chemin vers l'église.
Ouais.
C'est très belle photo.
Voilà, ce mur, il commence là-bas tout au bout.
Ah oui. Donc,
là-bas tout au bout, il est tout seul. Petit à petit, on rentre dans le bâti et il continue à l'intérieur.
Avec Sœur Dominique, mère abbesse de l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Soleil-Mont. Franz Laurent, Marie-Noël Dailly, Jean Yernaud.
À l'abbaye de Soleil-Mont,
oui.
Qui est un ordre...
ordre cistercien.
Cistercien, comme
ordre de
Westmal, Chimay, Rochefort,
là, on fait toutes les bonnes
Orval.
Trappistine, si vous voulez, mais on dit plus Trappistine. Ouais. C'est plutôt l'allure l'ordre de cistercien.
Et donc, en un mot, l'ordre cistercien est un ordre...
contemplatif. Donc, c'est-à-dire, c'est une vie qui est vouée essentiellement à la prière. La prière, il y a bien sûr la vie fraternelle, le travail, l'accueil. On reçoit assez bien ici.
On voit ici ce plan, qui est un plan éclaté, hein, avec le point central, c'est l'église qui se trouve ici.
À droite,
Oui, alors là, on a toutes les cellules de communauté.
Derrière.
Alors, les ateliers ici, et là, l'accueil, avec des chambres d'hôtes. Hein.
Oui. Oui, c'est un zigzag.
Alors, il y a aussi, pour la construction, il y a aussi un point particulier, c'est que le site est exceptionnel.
Mm-hmm. Hein.
On avait une grande clairière là-bas, au sud-ouest. On ne pouvait pas trouver mieux comme emplacement pour les cellules, où les sœurs vivent là toute leur vie. Mm-hmm. Donc, elles doivent avoir un cadre favorable.
Mm-hmm.
Hein. Vous avez remarqué, sur le plan, il y a tous ces décrochements.
Oui.
Et ces décrochements sont dus à cette réflexion, c'est que cette orientation sud-ouest n'est pas favorable pour des chambres,
mm-hmm.
parce que c'est trop chaud. Hein. Je me suis dit, on va mettre la fenêtre
mm-hmm.
à l'est,
mm-hmm.
Enfin, au sud-est,
mm-hmm.
hein, pour avoir une orientation au point de vue climatique plus intéressante. Et on va avoir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des petites ouvertures pour profiter de la vue de cette clairière.
C'était surtout à ce moment-là, au 9e siècle, etc., 10e siècle, c'était avec Cluny, avec une vie monastique qui devenait de plus en plus liturgique, mais avec trop de fastes, etc., etc. Et ils voulaient retrouver un peu plus la pureté de la règle de Saint-Benoît, plus simple, plus pauvre, etc. C'est comme ça. On ne peut pas appeler ça schisme, mais voilà. Ils sentaient un appel à quelque chose, un renouveau par rapport à ce qui se passait aussi à cette époque-là.
Et en plus, il y avait une pente du sol qu'on a voulu conserver. Ça fait qu'en plus, on a aussi à chaque cellule un décrochement d'une marche pour chaque cellule.
Ben, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Il n'y a pas des masses comme c'était d'avant. Mais enfin, bon, on en a quand même, quoi. Mais voilà, l'avenir, ça, c'est pas l'avenir. Hein. Simplement, on est dans les mains de Dieu. Et puis bon, l'important, c'est de vivre ce qu'on doit vivre au jour le jour. Et ça, c'est l'important. Et essayer d'être disponible aux appels de l'esprit à l'heure actuelle. Mais lorsque ce sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans...
Et pour vivre cette contemplation, cette prière, je pense que le silence, c'est une des vertus.
C'est-à-dire, oui. On ne fait pas vœu de silence, parce qu'il y a des gens qui croient qu'on fait vœu de silence. Ça n'existe pas. Non, simplement, le silence est une donnée fondamentale dans la vie monastique. Si on veut rechercher Dieu, bien, il faut une part de silence. On ne peut pas toujours être dans le bruit, etc.
Donc, du point de vue architectural, et c'est pour ça que nous sommes ici, la question du silence est une question réussie dans le lieu où nous parlons.
Oui, tout à fait.
Ce décrochement et ce décalage de niveau provoquent aussi la possibilité de ne pas avoir un couloir continu. Mm-hmm. Hein, chaque partie de couloir est un peu, presque une petite entrée pour chaque chambre. Mm-hmm. Hein, ça donne quelque chose de particulier, d'agréable. Mm-hmm. Hein, c'est ça. Et toujours en évitant des rencontres entre la partie extérieure, la partie intérieure, parce qu'il y a toujours cette clôture qui n'est plus marquée par des grilles ou des choses comme ça, mais qui existe toujours dans la... Hein, on n'a pas accès aux parties de la communauté. Hein. Mm-hmm. Franz Laurent.
Quand vous dites « à l'époque », il s'agit de quelle année ?
Ça doit être il y a 50 ans, 64, oui.
1964.
Oui, oui, oui.
Et Vatican II, dans mon souvenir, c'est 63, 62.
Oui, quelque chose comme ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Je dois dire aussi que moi, je n'étais pas spécialement au courant de la vie monastique, bien que quand j'étais jeune, très jeune, je suis allé à Orval, et j'étais très impressionné par ça. Hein. Et... Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose, mais ça m'a fait, comment dirais-je, un challenge. Quand on m'a demandé d'étudier ça, pour moi, il y avait cette réminiscence de cette vie monastique. Hein. Mais je parle de ça aussi parce que j'ai été aidé par le frère Gérard, qui était architecte, qui, après ses études, est entré au monastère de Westmalle. Donc, il n'a pas voulu travailler pour la construction. Il voulait garder sa vie monastique. Hein, mais seulement, il a été, un interprète. Parce que d'un côté, il avait cette culture d'architecture, hein, d'architecte, et de l'autre côté, il connaissait la vie monastique. Donc, c'était vraiment un contact idéal entre la communauté et l'architecte. Hein, donc, et puis, il avait mon âge, il avait fait ses études en même temps que moi, donc il y avait beaucoup de similitudes à ce niveau-là. Hein.
Vit-il toujours ?
Et il vient de décéder il y a un an ou deux, je croyais, hein, malheureusement, eu la maladie de Parkinson, et ça, c'était assez douloureux, oui.
Mais alors là, l'aspect architectural, c'est M. Laurent. Là. Surtout que moi, à cette époque-là, je ne vais pas dire que je n'étais pas née, parce que ce n'est pas vrai, mais je n'étais pas encore entrée au monastère. Je suis rentrée qu'en 82. Donc, voilà. Mais j'ai entendu oui dire donc, de tout ce qui s'est passé, comment ont été faits les projets, etc. Mais voilà, ça, c'est lui qui peut vous dire plus.
Mais 1964, construction du monastère.
Non. On est rentrée en 73. Mais ils ont commencé après l'incendie. L'incendie, c'est 63.
Ça fait une dizaine d'années.
Oui, 10 ans qu'elles sont restées dans les ruines là-bas à réfléchir et se dire quoi, etc. Et voilà. Oui.
73, c'est après 68 que les choses ont bougé.
Oui. Mais si on a ceci, c'est que déjà. Parce que quand même, même en 73, même assez tôt, il y avait encore. Avant, il y avait quand même la grille qui était très stricte, etc. Avec ceci, en 73, il y a déjà une partie. Hein, les grilles sont parties, mais tout était parti, nous autres, avec l'incendie. Alors, c'est vrai. Les sœurs se sont retrouvées tout à fait dépouillées. Notre mère, Mère Thérèse, était quelqu'un avec un esprit très
ouvert. Je veux dire que c'est un esprit d'ouverture particulier.
Oui, je pense bien. Mais ça, c'est mieux que quelqu'un d'autre le dise que moi. Voilà. Merci, c'est gentil.
Quand on voit cette église... On se reporte 50 ans en arrière, qu'on voit une communauté qui vit dans un vieux monastère du XIIe siècle, hein, qui doit faire le pas vers une église moderne. C'est exceptionnel.
D'ailleurs, les gens, ils s'imaginent toujours qu'il n'y a que ça.
Pardon ?
Les gens s'imaginent toujours qu'il n'y a que ça.
Ah oui,
et alors, on leur dit, mais pouvez aller faire un petit tour ?
Oui.
Et puis alors, quand ils voient, ah mon Dieu, il y a tout ça. Ah, mais il faut quand même loger les sœurs. Hein.
Ah ben,
il y a quand même une trentaine.
Comme,
donc,
quand on a conçu l'abbaye, on a travaillé au minimum. Hein.
En fait, c'est un petit monastère. Hein. Même quand on vit à 30 ici, quelque part, c'est pas grand. Hein.
Oui,
il n'y a pas de place, quand on compare les autres monastères, il n'y a pas de place un peu... Ils sont très vastes où on pourrait entreposer des choses. C'est assez...
Oui, mais par exemple, un exemple, on a dans tous les monastères, il y a un scriptorium et un chapitre. Ici, on a réuni les deux. Donc, c'est une caractéristique de cet esprit de réduction.
Et scriptorium et chapitre, c'est
chapitre, c'est-à-dire c'est une place, normalement le lieu où la communauté se réunit tous les jours pour écouter un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Et puis alors, à ce moment-là, l'abbé ou l'abbesse enseigne un peu, donne des nouvelles. Et ça se fait normalement tous les jours, de la chapitre, après l'office de l'aude. Scriptorium, ça c'est le lieu de la lecture, si vous voulez. Là, on appelle la lectio divina, la lecture spirituelle qu'on fait tous les matins. C'est un lieu commun, normalement, où on fait la lecture. On peut avoir un scriptorium, mais maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup ont aussi la cellule dans laquelle on fait aussi la lecture spirituelle. Mais on a aussi un scriptorium.
Ce décochement des cellules, ici, on voit bien, en fait, ce que ça fait, en fait, d'être à la fois caché et ensemble quand on avance. Parce que ici, en fait, on voit presque une seule ligne et tout doucement, ça va se défaire, ça va se déplier comme un accordéon et on va voir apparaître toutes ces fenêtres comme ça, une après les autres.
Oui, c'est l'œuvre la plus importante de ma carrière. Je crois que dans le livre de Charleroi, on parle un peu de moi et on parle de cette œuvre comme une œuvre exceptionnelle et unique. J'ai fait d'autres choses. J'ai un peu l'impression que j'ai été réduit à peu de choses, à part ceci qui est exceptionnel. Mais j'ai quand même fait d'autres constructions. J'ai passé toute ma vie à faire de l'architecture, finalement.
Très vite, l'horaire, c'est quoi?
Ah, l'horaire, on se lève vers 3h30, 4h moins quart. À 4h05, on a l'office des vigiles. 4h05 du matin. Oui. Et puis après, on a... Ça dure à peu près que 5h15, 5h30. Et puis après, on a ce qu'on a dans le temps de la lection, la lecture spirituelle. Et puis après, il y a le déjeuner, qui est compris un peu après. À 7h15, on a l'aude, l'office de l'aude. À 8h15, on a le chapitre. À 8h10, on a l'office de tierce et la messe. Et puis le travail, à 12h10, on a l'office de sexte, et puis c'est le dîner, la vaisselle, etc. À 14h15, on a l'office de nonne, puis le travail. À 17h30, on a l'office de vêpres, et puis 18h15, le souper, et puis 19h25, le dernier office, complet. 7 offices par jour.
C'est une vie dédiée à la prière, voilà. Entre autres, la prière liturgique.
30, vous êtes 30.
On est en 30 à peu près. Entendu, ça dépend un peu, parce qu'il y en a qui aident d'autres communautés et puis il y en a qui sont en aide.
Mais ici, on voit vraiment le bâtiment qui se développe. On est dans un jour pluvieux, brumeux, on n'a pas d'ombre, pas de lumière. Hein. C'est pas pareil, vous venez voir ça en été, hein, vous verrez tout ce jeu de lumière, tous ces décrochements créent aussi des jeux de lumière.
Ça, c'est les personnes qui viennent loger chez nous, donc ils sont en retraite. Et voilà, il y a 12 chambres de ce côté-ci.
Ça donne
Allez-y, monsieur.
Ça donne une idée des cellules de communauté. Mais ici, on a des chambres de part et d'autre du couloir.
Oui.
Hein? Tandis qu'en communauté, on a des chambres que d'un seul côté. Oui. Ça fait que de l'autre côté, on a des fenêtres qui donnent sur la nature. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est quand même le même esprit.
Oui.
On retrouve donc toutes ces parois en béton hein, qui sont des éléments de construction. Qui sont à la base de toute l'architecture du monastère. Et on voit donc ici toute la partie communauté qui se développe.
Les enfants qui viennent par exemple pour des journées monastiques ou bien de catéchèse. Alors il y a une sœur qui anime parfois. Il y a des couples qui viennent pour des récollections. Il y a des prêtres qui viennent, des religieux. Et puis qui viennent loger, il y a des couples, il y a des étudiantes, il y a des gens qui sont en recherche. Aussi bien croyants, incroyants, de toute religion même. Voilà, on est ouvert à tout, pourvu que voilà, on soit dans l'esprit d'une recherche en tout cas, du sens de la vie ou de remise en question, etc. Voilà.
On avait un bureau de la mère abbesse qui se trouvait dans la série des cellules. Il était vraiment réduit au point de vue surface. On a dû trouver un agrandissement et c'est pour ça qu'on a ce bloc en bois qui a été l'agrandissement du bureau de l'abbesse. Hein. Dans le temps, si vous voyez par exemple l'abbaye de Villars-la-Ville, vous avez l'abbatia, c'est un palais. Ici, c'est qu'une petite cellule. Hein. Alors, donc, on a toute la partie communauté, donc c'est toutes ces cellules. Alors là, vous avez, où il y a une grande fenêtre, c'est le scriptorium, On a donc une grande fenêtre et puis toutes petites 4-5 fenêtres qui sont la prolongation. C'est donc toute l'importance du scriptorium.
Récollection, ça veut dire que c'est un moment, une journée où ils se retirent, des personnes se retirent voilà, pour réfléchir un peu pendant la journée, souvent avec un prédicateur sur des thèmes, qu'ils soient religieux ou autres. On a aussi fait beaucoup dans le religieux, interreligieux et l'œcuménique aussi.
Alors là, donc, on a toutes ces cellules qui sont sans étage, hein, qui sont au premier en fait, mais qui ne sont pas surmontées d'un salle d'infirmerie.
Parce qu'en fait, on a travaillé toujours avec des éléments béton et hein, il y a cette répétition d'éléments. On a cette préfabrication, c'était la possibilité justement, parce qu'on a beaucoup de cellules et beaucoup de locaux comme ça qui peuvent s'adapter à ce style de construction. Hein. Si on veut faire ça en construction traditionnelle, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a tous ces angles. Donc ici, ces angles se solutionnent facilement puisqu'on a les parois en béton, puis le châssis. Hein, tandis qu'en maçonnerie, si on a des angles, on doit donc travailler toute la maçonnerie, toutes les briques, tout ça. Hein, c'est beaucoup plus compliqué. Tandis qu'ici, c'est facile parce qu'on a chaque fois ces éléments. On a pensé à ça lors de la construction, et quand l'abbaye a proposé la construction en éléments préfabriqués, donc, hein, qu'on a choisi un peu dans un souci d'économie, hein, pour avoir quelque chose de plus moins coûteux au point de vue.
Qui devait quand même, dans l'histoire de l'ordre, être assez révolutionnaire, non?
L'architecture cistercienne est une architecture très, très, très minimaliste, si je peux dire. Hein, il y a peu de décoration.
Sobriété, simplicité.
Oui, simplicité.
Le bâtiment est très simple,
oui, c'est ça.
Simple, hein. Il n'y a pas d'artifice. Il y a pas...
C'est comme ça.
Les églises, d'ailleurs. Mmh. Si vous allez dans une église cistercienne, il y aura la croix, il y a le tabernacle, il y a la Vierge. Bon, c'est tout. Et puis, il y a le cœur des moines, démonial. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, c'est vraiment... Tout est focalisé pour une contemplation, j'ai envie de dire, voilà. Direct dans le sens où il n'y a rien qui va venir interférer pour ne pas être dans ce face-à-face et cette rencontre. Avec le Christ. Voilà.
Le béton était un élément favorable à cette expression de l'architecture cistercienne, parce que c'est dépouillé, c'est simple, c'est ça. Hein. Oui, c'était, pour l'architecte, c'est un plaisir.
Parce que c'est tout, mais pour nous, c'est un plaisir d'y vivre. Hein. Alors, en général, c'est vrai, les gens, la première fois, qu'est-ce que c'est que ça? Un peu drôle, hein, tout ce béton. Et puis après, quand ils vivent, quand ils sont à l'intérieur, on se dit, après tout, c'est quand même beau, quoi. C'est bien pensé, c'est bien conçu. Mais c'est vrai, pour nous autres qui y vivons, c'est très fonctionnel, ça c'est vrai. Mais aussi, on est toujours avec la nature, quoi. Il y a plein de vitres, donc on est en symbiose vraiment avec la nature.
Plein dans la nature.
Parce qu'il y a plein de vitres et donc c'est très lumineux. Donc on aime beaucoup. Quand je vais dans d'autres monastères qui sont, disons, architecturalement, aller du beau roman, etc., c'est très beau. Mais je me dis, pour y vivre, j'aime mieux de vivre dans mon petit monastère.
Ouais. C'est grâce à Vatican II qu'on a eu cette porte d'ouverture, de cette possibilité.
Hein. Aussi, tout à fait.
Ah, c'est ça. Ici, les sœurs donc, vivent toute leur vie ici. Elles meurent ici. Elles ont un cimetière. Hein. Et il faut les soigner quand elles sont âgées. Hein. Donc, ou quand elles sont malades. Il y a une sœur médecin ici, dans la communauté. Hein. Donc, ce sont des détails, mais enfin, ça peut être intéressant.
Hein. Pendant la nuit, les choses commencent.
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment le point central aussi du monastère. Donc, c'est l'église où on se réunit 7 fois par jour, donc pour chanter la louange de Dieu, pour intercéder aussi pour toute l'humanité. Donc, ici, c'est le côté des hôtes, vous voyez ici. Avant, c'était toujours bien délimité. Il y avait une clôture ou des grilles, parfois. Donc ça, c'est fini. Ici, vous avez les autres. Et puis ceci, c'est le cœur des moniales. Et donc, il y a une entrée pour les sœurs de ce côté-là.
Le réfectoire. Le réfectoire. Il y a aussi encore quelques cellules ici. Là-bas, un petit bloc de quelques cellules. Et puis, toute cette partie-là sont les ateliers. Donc. Et ici, on a cette vue exceptionnelle, hein, cet élargissement. Parce que on aurait construit ça dans un bois sans cette ouverture, c'est différent. Hein, ça donne une respiration.
C'était comme ça.
Et un calme, pardon.
C'était comme ça.
Alors, quand l'abbaye a pu acquérir la propriété ici, hein, on est venu voir la mère abbesse Moi, j'ai vu cette prairie, j'ai dit, ben, il n'y a pas de choix, c'est celle-là, il ne faut pas chercher autre chose, c'était ça. Hein.
Mm-hmm. Hein. Clôture, donc ça, c'est toutes les sœurs habitent ici, donc voilà. C'est tout le côté, disons, spirituel là-bas, et le scriptorium, et puis les cellules. Et puis par là, on va du côté, alors où il y a le travail, en plus de ce côté-là. Et donc tous les matins, on arrive donc par ici, par cette porte-ci, et puis... Donc vous voyez, il y a le Saint-Sacrement, il y a la Vierge et il y a la Croix. Voilà, c'est assez sobre, il n'y a pas de statue de saint, etc., comme vous retrouvez dans d'autres églises. Puis vous avez la pierre d'autel là-bas, qui a été une pierre d'autel du vieux Soleilmont et qu'on a ramenée en 84. C'est le jour où on a fait la dédicace, en 1984, donc 10 ans après, même 11 ans après être arrivé chez nous. Et donc c'est une ancienne pierre du vieux Soleilmont. D'ailleurs, vous pouvez voir, elle a déjà été... Quand on fait la dédicace, on met des petites croix sur les murs et sur l'autel. Et vous pouvez aller voir, il y en a déjà eu plusieurs, parce qu'elle a déjà été consacrée. Elle date du 14e siècle, je crois, cette pierre. 14e, 15e siècle. Donc, venez, vous voyez ici toutes les croix, les différentes croix qui ont déjà... Ça veut dire qu'elle a déjà été consacrée plusieurs fois. Quoi. C'est une belle pièce, hein, une belle pierre d'autel. Hein. Et donc, en fait, Monsieur Laurent, quand il a pensé à la mettre. Vous voyez ici, c'est exactement le même matériau que si vous regardez là-bas. Vous voyez là, à l'intérieur dans le cloître, c'est noir.
Le socle, on l'a inventé pour supporter cette dalle. Et vous retrouvez dans le monastère beaucoup d'éléments d'architecture qui sont en métal, comme ça, avec des poutrelles. On voit la croix, donc à l'entrée, on voit les balustrades et dans les escaliers, tout ça.
Ce
sont des éléments. On voulait quelque chose de simple. Ce qui est important, c'est l'autel, c'est pas son support. Hein, c'est ça. C'est une pierre extraordinaire. Hein, C'est un élément pour la communauté qui inspire à cause de son ancienneté.
Oui, puis c'est drôle.
Je trouve
c'est...
que l'église est vraiment formidable.
Oui,
vous êtes fier?
Pas fier, mais heureux. Oui. La fierté, oui.
Vous venez souvent ici?
Je suis simple. Non. Pas beaucoup.
Quand on l'appelle, il est encore toujours là.
Je viens souvent, c'est souvent quand même, oui, à l'abbaye, oui. Mais pas souvent à l'office, non.
Et ces micros qui pendent, pourquoi?
Ah oui, ça c'est parce que pendant longtemps, ils datent peut-être, combien, il y a peut-être 15 ans qu'on les a mis, pendant longtemps, on disait la parole, etc., sans micro, sans rien du tout. Et puis les gens de l'extérieur se plaignaient un peu quand même, on n'entendait pas beaucoup, hein, surtout quand il y avait la messe, etc. Alors pour finir, je me souviens qu'on a mis le premier micro en 94.
Ah oui.
Et puis alors après, les gens toujours disaient, on n'entend quand même pas trop. Alors on nous a dit pour l'acoustique que c'était bon de mettre ceci, et de fait, tout est diffusé à l'infirmerie, hein. Donc c'est repris à l'infirmerie, comme ça les sœurs qui sont, ben voilà, ils ne savent pas venir à l'office, peuvent entendre la liturgie aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a mis ça. C'est peut-être pas le plus beau, mais voilà, c'était ce qu'il y avait le mieux. On a pensé, parce que l'acoustique n'est pas tellement bonne, dans le sens qu'il y a quand même du tapis plein. Il y a ici aussi...
d'absorbant dans le plafond.
Oui, le plafond. Et donc alors, quelque part, il faut, j'ai envie de dire, chanter assez fort pour que voilà, ça donne bien. Alors que parfois, beaucoup d'églises... Il y a 2 personnes et c'est comme s'il y avait 25 personnes ici. Il faut
et puis le chant, c'est quelque chose d'important.
Ah ben oui, 7 fois par jour, donc on chante toujours, j'ai envie de dire, souvent.
Mais c'est parce que vous avez besoin d'un écho quand vous chantez, vous avez besoin de quelque chose qui se prolonge. Votre son doit s'éteindre ou...
Non, c'est d'ailleurs
parce que moi, je m'entends très bien ici.
C'est-à-dire qu'entre nous, parfois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient de changer, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, le chœur était plus éloigné. Et donc, il y a quelques mois, avec les sœurs, je me suis dit, oh, parce qu'on se plaint justement qu'on ne s'entend même pas parfois. Même quand on joue de l'orgue, il y a quelque chose qui fait que c'est pas facile, pas forcément facile pour chanter. Alors, j'ai dit, on va faire un peu plus proche. Et en même temps, c'était plus. Les gens, quand ils ont vu ça, oh, c'est bien, comme ça, c'est plus fraternel, c'est plus convivial, etc. Et donc, on l'a laissé et on s'entend mieux. Parce que sinon, avant.
Par exemple, ici, mais là, moi, je suis.
Oui, c'était plus carré.
Vous étiez ici et les sœurs étaient plus là-bas. Eh bien, pour entendre,
Surtout quand on joue la cithare aussi, qui n'est pas un instrument comme l'orgue, qui avait un son plus puissant. C'était assez difficile de s'entendre. Et donc on a fait ceci, on est beaucoup plus content. On s'entend mieux, on est plus proche. Mmh. Sinon, c'est pas si évident que ça, de chanter.
Vous avez joué la cithare ?
Moi, non.
Oui.
Ma mère, quand j'étais gamine, et donc elle est architecte aussi, Anne Krugart. Elle nous emmenait faire des dessins dans le paysage et elle posait la même question. Où tu placerais ta maison dans le paysage? Où tu placerais ta maison? Et elle nous disait, faites attention, pas mettre la maison là, sur la chose que vous aimez parce que vous allez l'écraser, mais mettez-la à un endroit où vous pouvez voir ce que vous aimez.
Je trouve ça vraiment tout à fait formidable. C'est comme ça que ça doit se faire. Parce que la plupart des maisons, moi je vois bien souvent, parfois des maisons dont l'architecture est valable ou même exceptionnelle, mais qui se trouvent coincées entre deux autres maisons. Ça ne va pas. Hein, quand on fait quelque chose de bien, il faut l'installer. Quand on a un tableau, on l'installe et on choisit l'endroit. La maison, c'est la même chose. Hein. Évidemment, ce n'est pas la portée de tout le monde. Hein. Bien sûr, on ne peut pas tous avoir un grand terrain pour mettre sa maison. Mais on peut aussi, c'est un peu l'esprit actuel de l'évolution de l'habitat, c'est de faire des habitats groupés. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des espaces plus importants, qui sont beaux, dont chacun pourra en profiter.
Ce qui est bien aussi, M. Laurent, je ne sais pas ce que vous avez dit, c'est qu'avec cette construction, on a déjà ajouté beaucoup de fois des éléments que les gens ne se rendent pas compte, en fait.
Oui.
Hein. Et c'est très facile, vous réimbriquez quelques éléments, et puis voilà. On a déjà construit 3 ajouts.
Ah oui.
Je vais faire la 4e ici maintenant.
Oui.
Oui.
Vous aviez un bureau ?
Oui, j'étais seul, oui.
Ah oui.
Tout seul. Oui, j'ai de temps en temps eu une aide, mais c'est insignifiant. Non, j'ai travaillé
le
seul.
Le clocher, il est comme la croix et comme le...
Oui, c'est le même...
C'est aussi des poutrelles en acier.
Oui, tout à fait.
Et il est en dehors, comme ça, il est autonome
il était juste
au bâtiment.
Oui, il était collé juste ici, collé. Sur l'église.
Mais pour finir, ça faisait tellement de résonance, etc., on a dit non, c'est quand même pas tout à fait. Alors, après un certain, peut-être maintenant une quinzaine d'années, on a fait vraiment un clocher, disons. Et alors, on entend bien aussi la cloche.
Ouais.
Parce que sinon, on s'était confiné un peu.
Oui, il est sur votre
photo.
Il y a une belle photo là avec ça.
Mais ça m'avait étonné, ce clocher. Et une autre église que j'ai photographiée à Lodensart, ou dans le premier, je ne sais plus, de Jacques Gailly et Ronce.
Oui.
Ils ont aussi le clocher en dehors.
Ah oui, c'est ça, oui. Oui, il y a beaucoup d'églises. À cette époque, on construisait ce clocher comme ça. Je ne suis pas, quelqu'un qui peut faire des affaires, des choses comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt artiste. Je dis ça sans aucune... avec beaucoup d'humilité, parce que je fais de la peinture, je fais de la gravure, je fais de la céramique, je fais de l'architecture. C'est ça, mais je ne sais pas déléguer, je ne sais pas courir après les clients, je ne sais pas faire des affaires, ce n'est pas mon rôle. Quoi.
D'accord. Hein? Voilà, moi je ne m'y connais pas trop en architecture religieuse ni quoi que ce soit.
Mais votre frère est architecte.
Oui, je sais, mais ma mère m'a emmenée aussi quand j'étais jeune voir des tacs d'abbaye Cluny, Tourelle, la Tourette, ou je ne sais pas.
Oui.
Mais bon, c'est des souvenirs d'enfance. Mais allez, je veux dire, on rentre et en fait le cœur n'est pas dans l'axe de l'entrée, tu vois. C'est comme une poche sur la droite. Et quand même, c'est... Enfin, moi, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup d'églises où, en fait, on peut voir le paysage ou l'arrière-plan de l'hôtel, c'est le paysage,
en fait.
Oui. Dans mon esprit, j'avais conçu un peu cette église comme la salle des réunions de la famille. Oui. Au lieu d'avoir cette majesté des grandes églises gothiques, on aimait d'avoir quelque chose, une réunion de la communauté, et avoir, comme dans un living, une grande fenêtre ouverte sur la nature. Je trouve ça inspirant, c'est un peu inspiré aussi de l'architecture scandinave. Hein. Mm-hmm. Et on nous trouve chez eux des architectures un peu comme ça.
Nous avons un monastère en Norvège, et de fait, leur église est complètement vitrée. Je crois que c'est presque...
Ah oui.
Oui, en tout cas, tout le devant, mais vraiment, pas simplement.
Mais allez,
à Mississippi aussi, en Amérique, tout le chevet comme ça, c'est tout à fait ouvert.
Oui, oui. Il y a une
église. Vous avez l'abbaye d'Oka, qui, Val Notre-Dame au Canada, qui vient d'être faite. C'est tout à fait aussi vitré.
Mais de nouveau, ce rapport, je trouve, intérieur-extérieur,
tout à fait.
Voilà, qui marque déjà à l'entrée ici que, le petit chemin pour arriver.
Mais disons que c'est, pardon,
et dans les cellules.
C'est un peu spirituellement, c'est ça.
Oui, mais
la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est sinon, c'est retrouver son intériorité et la profondeur de son être. Un peu. Donc, c'est vrai qu'il y a, cette aspect.
Mais moi, je défends un peu
avec
ma fenêtre parce que je trouve qu'elle garde l'intimité. On a une vue sur l'extérieur, on a ce paysage qui est formidable, qui est superbe. Mais ce n'est pas trop, quoi.
C'est
une question de mesure.
Tout à fait, parce que sinon, ça pourrait être un peu...
trop distrayant.
Distrayant.
Oui. C'est un peu la coquille dans laquelle on est et l'ouverture. C'est un peu ça.
Ce qui est beau, c'est cette ouverture. Cette gravée, là.
Oui, puis il y a la question aussi de l'accueil. Je trouve aussi de l'accueil. Moi, j'ai pas beaucoup d'éducation, je répète, sur les églises, mais j'ai souvenir plutôt qu'on cherchait à m'impressionner dans certaines églises avec tout le décorum et ces fonds dorés, ces énormes crucifix.
Oui, mais c'est pas dans l'esprit cistercien.
Non, mais bien sûr.
En tout cas, le bâtiment influence, ça c'est clair. La beauté aussi influence, mais le bâtiment même. Vous savez, j'imagine des bâtiments énormes avec une petite communauté de 10-15. Pour la vie fraternelle, je me demande comment c'est vécu. Énorme, dispersé, avec des tas de grandes pièces, etc. C'est une question que je me pose parce qu'il y a beaucoup de monastères qui doivent faire des transformations ou qui deviennent très petits en nombre avec quand même des bâtiments gigantesques. Je me dis, ça ne doit pas forcément être évident, peut-être pour vivre cette vie fraternelle, ou en tout cas, c'est pour ça qu'il recompose beaucoup, qu'il regroupe beaucoup. Il y a toutes des ailes de bâtiments, qu'on n'y va pas, et puis on se recentre dans un seul lieu, parce que sinon, ce n'est pas très vivable. Alors c'est vrai ici, quelque part, comme je le disais, le bâtiment est petit pour 30 personnes qui y vivent, mais voilà, je crois qu'il y a aussi l'aspect fraternel qui est très fort, solidarité, accueil, ouverture, c'est un peu tout ça. Mais c'est vrai que l'architecture, certainement, influence quand même. Surtout quand on y vit tout le temps, comme nous.
Je me serais bien vu moine. J'aurais aimé cette vie monastique, mais je ne sais pas faire le pas. Difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Moi, j'étais toujours très impressionné par la vie monastique et par les monastères. Ça a commencé, comme je vous le disais tantôt, par Orval. Et pas su faire le pas, quoi. Dans la vie, c'est comme ça, il arrive un moment où on décide où on va, et alors c'est décidé. Et moi, à un certain moment, j'ai décidé de ne pas y aller, et ben voilà. C'est comme ça. Le doute aussi, c'est un peu peut-être une croyance.
Oui, tout à fait. Dès qu'il y a recherche. Mais en tout cas, je pense que les sœurs qui ont travaillé avec vous ont toujours senti beaucoup de respect de votre part et aussi même de comme si vous sentiez quand même un peu ce qu'on vivait. Même si
j'ai une éducation religieuse, j'ai toujours eu une éducation religieuse.
Vous avez...
Oui, je la connais et j'ai le souvenir de l'époque d'ailleurs où elle a flambé. Donc, vu mon recul, évidemment, ce n'est pas d'hier. Oui, j'en ai bien le souvenir, absolument, oui. Mais je crois qu'ils ont tiré parti, qui n'est pas inintéressant maintenant. Donc, le souvenir de la reconstruction de la nouvelle abbaye, qui est en vision contemporaine, je suppose que vous la connaissez, avec Franz Laurent, que je connaissais très bien, Franz Laurent, qui est à Fleurus, il avait beaucoup de sensibilité.
Pour l'enseignement des écoles, des choses comme ça, et beaucoup d'habitations privées. J'ai beaucoup de contacts avec mes clients, c'était un peu comme ici, toujours
fraternel, si on peut dire, ou plus intime, quoi. On ne choisit pas ses clients viennent chez vous, ils ont envie de faire quelque chose. Donc, parfois, on doit céder, ou on ne peut pas dire, tiens, moi, vos projets ne m'intéressent pas, je ne fais pas ça. Donc il y a des choses qui sont moins exceptionnelles. Ici, c'est exceptionnel parce qu'on a eu une ouverture et une attente de longue durée. On s'est dit, on va prendre le temps pour faire les choses. Et ça a mûri. On ne peut pas, pour une habitation privée, dire à un client, écoutez, votre maison, vous l'aurez dans 10 ans. Hein? Mais en bâtiment public, c'est le cas. Bien souvent, on commence un bâtiment, on réalise 10 ans après. Enfin, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Je connais Jean Hernaud, notamment. Il me le disait bien souvent.
J'ai été étonné, il y a 2 ou 3 heures, j'y suis retourné, là, dans les bois de Salémon. J'y suis entré, etc. Mais c'est un beau lieu de réflexion, quelles que soient les options religieuses ou autres. Voilà, c'est bien. Oui, oui. Alors, j'ai encore eu l'occasion, effectivement, il y a, je crois, 1 ou 2, d'y aller avec un groupe... qui visitait la ville, je me laissais guider comme d'autres, et j'ai été très étonné de voir à quel point c'était quand même intéressant, voilà, pour l'instant.
Jean Hernaud, c'est architecte urbaniste de Charleroi, de l'époque, qui a mon âge, donc qui vient de terminer sa carrière.
Oui, Franz Laurent, de Fleurus. Je l'ai bien connu, il a terminé un peu avant moi aux études, c'est ainsi qu'on a appris à se connaître. Puis nous étions au sud de Brabançon, lui était déjà un peu ennuyé. Moi-même étant de la région de Marbais-Brabant, et lui était ennuyé, là, c'était un peu à la limite, du Miroir, du Hainaut et du Brabant. Je l'avais connu aux études.
Oui, hein, oui, oui, je pense que si vous avez lu le livre de Charleroi, vous verrez qu'il a une importance considérable, hein, parce qu'il a fait quand même beaucoup de bâtiments publics, il s'est occupé de l'urbanisation, du rink de Charleroi, du petit rink, hein, donc il a une vie professionnelle importante. Hein.
Et je crois que c'est un garçon, c'est un gars qui a toujours d'ailleurs beaucoup de sensibilité, oui. La nouvelle abbaye, ça n'est même pas son projet originel, hein. Je n'étais pas encore en activité, que lui était déjà embarqué sur cela. Mais alors, son tout premier projet, c'était assez sublime. Alors, il a dû travailler dans des visions. C'est pas le préfabriqué qui a pu le limiter, mais bah, il a dû un peu rabattre, hein, si on veut, hein, pour la communauté, sans doute pour des raisons d'argent, je suppose. Mais même tel que réalisé là-bas, il me semble qu'en fonction des exigences, des moyens, etc., c'est une belle réalisation. Ça garde toujours une grande sobriété. Et ce qui, pour ce cas-là, précisément, porte un peu la réflexion, hein, quand on y est. C'est bien, il me semble. Sans parler de méditation, non? C'est parfois nécessaire.
J'ai fait Centre Europe avec lui, mais je n'ai pas une participation importante dans ce bâtiment. C'est plutôt lui. Hein. J'étais un collaborateur, mais j'ai signé le projet avec lui, mais c'est surtout lui le grand acteur de ce bâtiment. Mais c'est aussi un ami, alors...
Parce que les petits rings, au début, et pas au début, il n'y a pas encore tellement longtemps, j'entendais de gros bureaux d'études, je vous parle de 4 ou 5 ans, qui disaient le petit ring, il faut le démolir, il faut l'enlever, il faut aller... Bon, d'abord, soyons clairs,
Jean Hernaud.
Le petit ring, bien sûr, c'est une contrainte, mais je crois qu'on peut en tirer autre chose, et je crois que dans ce qui se fait, parce que vous m'aviez demandé de voir le passé, mais de voir le présent et le futur, hein, aussi, et donc, je crois qu'on va enfin comprendre, je crois que l'on comprend qu'au lieu d'être une contrainte routière, etc., etc., qu'on peut en faire une formidable plateforme ou vecteur de découverte de la ville. Et moi, je suis toujours très heureux, à certains moments, d'être en aérien et de découvrir. Bon. Et je crois que le petit ring, d'abord, ça n'a pas été la barrière telle qu'on a bien voulu le dire, parce que ce qu'on n'a jamais dit, mais je n'ai jamais voulu, dès le moment où la décision sur la politique qui avait décidé au final, de le faire, etc., de le réaliser, avec les travaux publics, l'État central au début, et puis bon. Le petit ring, à mon sens, pêchait plus par l'indigence de ce qui se trouve tout autour, c'est-à-dire les usines en débandade, les zones délabrées, l'ancien Conforama qui disparaît, puis Conforama, bon, tout ça, désespérant. Mais dès le moment où, aux structures autour de tout cela, je crois que ça peut devenir une composante de lecture extraordinaire. Et je crois qu'elle le deviendra.
Oui, c'est comme un observatoire. C'est... Quand tu es en voiture dessus, quand tu montes, tu tournes, tu observes à la fois l'intérieur et l'extérieur de la ville. Donc oui, c'est comme un point de vue. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup la partie aérienne pour ça. C'est-à-dire, je suis comme dans un circuit de fête foraine, presque, tu vois. Et je vois ma ville. Voilà, je me promène. La petite frustration que j'ai avec ça, c'est qu'on ne peut pas marcher dessus.
Ah ben oui.
Absolument pas. Voilà. On ne peut absolument pas marcher dessus.
C'est ça.
Et parfois, j'aimerais bien.
Ah ben oui.
J'aimerais bien m'en servir comme promenade, vraiment, parce que c'est cet observatoire, mais avec les voitures, évidemment, il y a un côté fonctionnel de direction. Oh, je vais par là, je vais à l'Overval, non, je vais à Ville 2 ou ailleurs, hein, voilà. Et on profite peut-être pas encore assez de l'aspect découverte.
Absolument.
Du paysage qu'il offre, voilà. Et c'est important parce que ça situe, ça permet de se situer soi. Voilà, je suis ici, là, je suis ici, c'est-à-dire entre ça et ça. À chaque fois qu'on fait un pas, je suis ici, c'est-à-dire entre ça
et ça. Et c'est drôle ce que vous dites, voilà. Parce que il y a, moi j'y crois à ça, le problème de la lisibilité. Mm-hmm. Et plus encore, comme on l'a dit tout à l'heure, et je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, hein, enfin péjoratif, bon, mais... Dès le moment où on est dans une ville assez confuse, cette grande nébuleuse très étalée, je crois qu'on doit retrouver un peu de clarté. Il y a d'ailleurs eu, je ne l'ai plus, parce que je l'ai donné à des étudiants, enfin d'études d'architecture qui étaient passés ici. Ils arrivaient parfois de temps à autre des diverses écoles. Et je leur ai prêté le livre, mais il y avait un bouquin d'auteur américain, Kevin Lynch.
C'est pas de Soviet Auto City,
je crois que c'était c'est ça, la vue sur la ville. Ouais. Évidemment, il traitait des villes américaines, hein. Mm-hmm. Boston, je crois, Los Angeles, quelques grandes villes américaines. Mm-hmm. Charleroi a d'ailleurs, et moi ça ne me gêne absolument pas, un peu des allures des villes américaines. Et pour être allé, moi, à Pittsburgh, mm-hmm. à certains moments, je découvrais là. Plus encore, lorsque j'y suis allé, on retrouve encore certains tramways, maintenant ils ont leur métro, mais qu'on a eu tout de suite après la guerre, c'était des tramways très, très, très ondulants. Les bogies d'ailleurs étaient faites à Cleveland, je crois, etc. Et on les a abandonnés ici, on les a revendus, je crois, à Belgrade ou ailleurs, en tout cas en partie. Et c'est assez étonné, la lisibilité et le fait de l'avoir en, comment dirais-je, en vision sens unique, les Vosgiens, hein, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, fait que, de toute façon, les points repères, hein, l'hôtel de ville, le beffroi et le dôme de la basilique, ce sont le beffroi, le dôme, moi je trouve ça, et j'espère qu'à l'avenir, on va trouver des formes de réhabilitation, d'éclairage de tout cela. Ça vaut ce que... À certains moments, j'ai pris quelques photos une fois du dessus de l'ancien... là où est actuellement le tribunal de commerce, là, hein, le musée du verre. Et c'était un peu le soir. Et j'avais pris une photo comme ça en vitesse. J'étais allé voir après les travaux de reconversion, ou du moins de réaffectation. Et il y avait effectivement un peu en pénombre le dôme de la basilique et le beffroi de l'hôtel de ville, au-delà de leur valeur symbolique. Mais ça avait un peu, c'est marrant, ça avait un peu des aspects de Venise. Hein. Avec le ciel rouge, le fond, c'était étonnant. Mais alors...
Venise, parce que quand l'industrie fonctionnait ici, il y a, je ne sais pas, 10, 15 ans, ça fonctionnait encore, les hauts fourneaux et tout ça.
Oui, oui, oui.
Ce ciel, c'était Venise.
Mais c'est ça.
portraits des architectes Franz Laurent et Jean Yernaux. Dans le cadre du nouveau guide d'architecture moderne et contemporaine, Charleroi Métropole, avec Sœur Dominique, mère abbesse de l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Soleil-Mont, Franz Laurent, Marie-Noël Dailly et Jean Yernaux. Portrait des architectes Franz Laurent, Jean Yernaux par Thierry Junicot. Production Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.